Aujourd'hui, on a fait travailler notre mémoire.
Petit canard. Encore une victoire de canard.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare.
Regarde les trois petits canards comme ils sautent, sautent dans la mare.
Un canard.
Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin. Salut Vicky.
Salut Gabriel.
Où est-ce qu'on était cette semaine?
On était au Centre Pompidou.
Au Centre Pompidou pour aller voir l'exposition sur Christian Boltanski.
Faire son temps. Du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite bio de Boltanski?
Oui, Christian Boltanski, il est né en 1944, il est parisien, il est encore vivant, il travaille, il vit à Malakoff, et il est né d'un père juif russe et d'une mère catholique corse. Et on va voir que ça a de l'importance dans son travail. Et c'est un artiste plasticien qui a commencé en tant que peintre, ensuite qui a fait de la vidéo, qui fait surtout des installations. Des installations qui sont des grandes œuvres, qui prennent souvent tout un espace dans lesquels vous pouvez déambuler, et qui utilisent beaucoup la photographie, mais aussi des objets divers et variés, la lumière.
La lumière.
On vous en parlera.
Qu'est-ce que c'est le concept général de l'expo? Le concept général de l'expo, c'est qu'en fait, c'est une rétrospective un peu des œuvres de Boltanski. L'expo a été mise en scène par Boltanski, et l'idée, c'est... Donc l'exposition, en fait, c'est une création en soi, c'est une œuvre d'art en soi, et c'est l'idée de... Ben, le projet, c'est une œuvre d'art totale, quoi.
Très, très axé sur le parcours du temps, de la mort, de la vie. Et d'ailleurs, l'exposition est un peu balisée par deux morceaux d'œuvre de Boltanski. Un grand panneau lumineux avec écrit « Départ » quand vous entrez et « Arrivé » à la fin. Ouais. Côté muséographie, c'est plutôt chouette. Même si ce qui fait que c'est chouette a aussi ses inconvénients, comme souvent, mais bon, tout n'est pas parfait. Toute l'exposition est plongée dans une certaine pénombre. Ce qui colle vraiment bien avec l'œuvre de Christian Boltanski, qui invite à la réflexion, au recueillement, au souvenir. Et c'est vrai que toute la muséographie ressemble presque un petit peu à celle qu'on peut trouver dans certains mémorials de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Assez sombre, avec parfois quelques petites loupiottes, quelques petites lumières qui font partie de certaines œuvres. Mais vous avez vraiment une pénombre généralisée dans toute l'exposition, qui est vraiment cohérente avec l'œuvre, mais...
Mais
qui va poser un problème.
C'est que il n'y a pas de cartel, parce que c'est une expo immersive. Du coup, il n'y a pas de cartel, et à l'entrée, on a un petit journal d'exposition qui nous
donne des explications sur les œuvres qu'on va voir.
Oui, voilà.
Ça commence par une interview de Boltanski, et ensuite vous avez une mini-bio, et chaque œuvre qui est présentée, vous avez un tout petit paragraphe. En plus, ça va, c'est pas trop long, c'est juste instructif ce qu'il faut. Le problème, c'est que moi, je me suis dit, je le prendrai en sortant, parce que souvent, ces petits journaux-là, vous les avez à l'entrée des expositions, mais ce n'est qu'une redite des textes que vous aurez. Là, en fait, c'était pas précisé que c'est le seul support d'information que vous aurez de toute l'exposition. Donc, prenez-le, ce machin-là.
Oui. Si vous... Enfin, prenez-le si vous voulez en savoir plus.
Oui, c'est vrai que les œuvres sont assez fortes pour que vous puissiez ressentir des choses sans savoir exactement le message qu'il y a derrière. Mais si vous voulez en savoir plus, vous n'aurez rien de plus niveau texte à l'intérieur de l'exposition. Et bon, alors petit détail, mais ce journal-là, j'ai trouvé pas pratique du tout. Ah, c'est un grand machin format A3, avec des feuillets détachables, et sachant que vous devez tourner les pages, vous vous retrouvez assez vite...
Avec un feuillet par terre, un feuillet sur la tête...
Et à devoir lire, dans un espace avec la pénombre, des textes écrits assez petits. Voilà, pour le côté, finalement, pas très adapté.
Oui, moi j'aurais fait un livret sur plusieurs pages, les textes un poil plus gros, parce que là, faut un peu se pencher pour bien voir ce qui est écrit. Après, le fond du texte, c'est bien.
Oui.
C'est pas compliqué. Après, les œuvres de Boltanski sont pas compliquées.
Mais c'est chouette d'avoir les quelques petites informations.
Voilà, mais les petites infos sont nettes. Et ça donne ce que ça doit donner. Et après, on profite des œuvres.
L'installation des œuvres est très bien faite. On peut vraiment déambuler dedans, autour. Le parcours se fait où vous avez vraiment l'impression de sortir d'une œuvre et d'arriver dans la suivante sans vraiment vous rendre compte. C'est vraiment parfois une petite promenade de surprise où vous surgissez au détour d'un...
Ouais, mais je dirais pas que c'est une promenade, hein, parce
non,
que
c'est
lourd. Hein,
c'est assez, oui. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas une promenade, disons que c'est un parcours de surprise
voilà.
Où vous pouvez parfois sortir de derrière un rideau et vous arrivez dans une salle avec des jeux d'ombre... Ou après, vous remarquez que à votre gauche, tout d'un coup, pouf, il y a un autre espace qui surgit avec des lumières. Enfin, c'est assez plaisant, sans parler des œuvres, c'est assez plaisant la manière dont c'est agencé. Et il y a notamment une œuvre qui est très très bien installée, vraiment qui est cohérente avec le bâtiment du Centre Pompidou. C'est une œuvre qui est faite de boîtes en métal superposées, donc de loin, et en plus à travers des sortes de tissus de voiles qui sont installés devant, on a l'impression comme si c'était la silhouette d'une ville moderne au loin. Et cette œuvre-là, elle est installée juste devant la grande baie vitrée qui donne sur toute la vue de tout Paris. Donc ça, en plus de ça, ça c'est vraiment, moi, vous arrivez là, vous savez, ah bah c'est quand même bien fichu cette affaire.
Ils ont bien réfléchi. Mais moi je trouve qu'il y a quand même un côté accumulation, parce que dans les pièces, il y a au moins toujours deux œuvres dans la même pièce.
Ouais, mais souvent qui sont en lien l'une avec l'autre. Moi ça m'a pas choquée, parce que je trouvais justement que vous pouvez voir les liens qui étaient faits.
On voit les liens, mais je trouve que ça fait beaucoup du coup, parce qu'on a souvent une œuvre au sol et une œuvre au mur. Mm-hmm. Et du coup ça crée, ça fait beaucoup d'effets visuels du
oui.
coup.
Puis parce on peut voir que c'est la même œuvre, alors en fait non, il
oui,
s'avère
voilà,
que c'en est deux différentes.
Oui.
Les œuvres en elles-mêmes, donc comme tu disais, c'est pas une promenade de santé, c'est assez lourd.
Ouais.
Il travaille sur les thèmes de la mort, de la mémoire, de la Shoah. La mémoire à la fois intime et personnelle, ce qu'il appelle la petite mémoire, donc la mémoire des événements personnels comme l'enfance, des choses qui nous ramènent à des choses qu'on a connues, mais aussi la mémoire collective, enfin vraiment l'Holocauste, la mort en général. Et c'est, vous êtes accueillis dans l'exposition par une vidéo d'un homme qui fait semblant de vomir du sang, avec le son des vomissements en boucle. Voilà, c'est ça qui vous accueille, et ça donne un peu le ton.
Ça met tout de suite dans l'ambiance.
Ouais, même si ça, je trouve que ça s'apaise vers la fin.
Plus oui, on avance, oui, c'est mieux c'est.
Enfin, mieux c'est. Mieux ça va.
Oui, dans sa tête.
C'est ça.
Mais oui, en fait, l'idée, c'est un peu... c'est un peu le cycle de la vie humaine, sa réflexion. Mm. C'est... des fois, il travaille beaucoup, par exemple, avec les vêtements, où il prend en photo des vêtements en disant « les vêtements, c'est les restes d'un corps qui a disparu ». Donc, c'est vraiment cette idée que y a la vie, mais il y a la mort, et il y a après la
c'est
mort
ça.
Aussi.
Qu'est-ce qu'on laisse de nous? On laisse des archives, et ça peut être des photos, des lettres, des vêtements. C'est pas toujours les vraies archives. Et ça, c'est vrai que si vous lisez pas les textes, vous pouvez pas le savoir. C'est qu'on a souvent ces impressions, vraiment ces impressions de mémorial... de l'Holocauste, alors que parfois ça va être des photos pas du tout de...
Oui, sa photo de classe par exemple.
C'est ça, il y a parfois où il utilise des photos de jeunes juifs qui sont probablement morts pendant la guerre, mais où d'autres fois c'est des photos d'enfants du club Mickey. Donc il brouille un peu les pistes, et moi je trouve qu'il y a une fois, une œuvre où j'ai trouvé que ça tendait presque un peu au voyeurisme, de dire oui mais alors là, bon à ce moment-là de quoi on parle, c'était une œuvre qui s'appelait Portrait, et on avait des portraits de gens qu'il avait tirés du magazine Détective, où il y avait certaines personnes qui étaient des victimes, d'autres personnes qui étaient des tueurs, mais c'était que des portraits souriants, et donc on savait pas qui était victime, qui était tueur. Bon, certes, mais alors le petit enfant qui le regarde avec des yeux larmoyants, on s'en doute que c'est pas lui qui a tué quelqu'un. Et là, je voyais pas trop là. Autant explorer la mémoire de la Shoah, explorer cette mémoire collective-là, je trouve ça très intéressant. Autant là, bon, aller fouiller dans des histoires morbides du magazine Détective, je voyais un peu moins l'intérêt.
Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça avait un petit côté voyeuriste. J'ai exploré toute la phase, on va dire, Shoah. Du coup, maintenant, je passe au morbide, quoi.
Ouais, c'était un peu ça.
Mais pour revenir sur le truc de... Enfin, sur l'idée d'archivage, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'œuvres où on retrouve cette idée de la boîte métallique. Où, la boîte métallique, finalement, résume la vie de la personne... qu'elle représente, quoi. Donc lui, il travaille beaucoup là-dessus. Et donc, il y a beaucoup d'œuvres où vous verrez ces boîtes métalliques qui sont en fait des boîtes de biscuits.
Oui, c'est ça, des vieilles boîtes de biscuits. Et il dit que c'est à la fois, ça peut être la boîte à trésors.
De l'enfance.
Même si, bon, c'est pas lui qui dit, mais on peut penser, c'est aussi, comme tu dis, la boîte d'archives. Enfin,
oui.
Là, on range les petits cartons d'archives. Et il dit aussi l'urne funéraire.
Et du coup, c'est un peu l'objet central de son œuvre.
Oui, ça et la photographie.
Oui, moi aussi, ce que j'aime bien dans son œuvre, c'est un peu, parfois, il va un peu plus loin que l'Europe, on va dire. Il aime bien faire des références à d'autres pays, à d'autres traditions. Donc, il y a une vidéo, par exemple, où il est en Patagonie et il communique avec des baleines. Et il y a une vidéo aussi avec le Chili où il reprend, en fait, l'idée de créer, en fait, au bord des routes, quand il y a des accidents, les Chiliens créent, en fait, des petits hôtels pour rendre hommage aux victimes. Et donc, c'est des petites clochettes. Donc lui, il a fait plusieurs films avec ses clochettes. Et je trouve que c'est intéressant de sortir un peu de sa réflexion sur la photo, la mémoire, enfin
ouais, et le notre mémoire collective, voilà, européenne, notre, mais d'aller un peu
de réfléchir à des, comment les mémoires collectives se font ailleurs qu'en Europe, ouais, finalement.
Quelles sont les traditions mortuaires ailleurs que chez nous. Et enfin les œuvres dont tu parles, mais même dans l'ensemble, ça donne c'est assez beau. Des fois c'est un peu dur, mais d'autres fois ça, vous avez juste envie de,
il y a un côté poétique.
Oui, c'est ça.
Malgré tout,
c'est pas c'est lourd, mais c'est pas agressif.
Mais je pense que c'est un peu le côté aussi hypnotique, peut-être, des lumières.
C'est possible aussi.
Il y a ce côté qui rend un peu, du coup, c'est lourd, mais on se sent pas oppressé. Et par contre, alors juste une chose, c'est dommage, mais il y a une œuvre où normalement, quand on passe à côté, il y a des trucs qui se déclenchent et l'œuvre parle. Et là, malheureusement, ça marchait pas. Donc c'est un peu dommage, parce que du coup, on nous vend ça...
On s'attend, à, quand on s'approche de l'œuvre, d'avoir ce retour-là.
Et... Oui, et puis le sens de l'œuvre, c'est qu'elle parle.
Oui.
Du coup, bah, l'œuvre perd son sens quand elle s'exprime pas, quoi.
Oui.
Donc c'était un peu bizarre, on était tous là, comme des imbéciles, à passer, à faire 15 fois le tour de l'œuvre.
Se rapprocher, à lui faire des gestes devant pour qu'elle nous parle, et qu'elle nous parlait pas. Alors, j'ai assez hâte de t'entendre parler sur ton œuvre préférée, parce que je t'ai vu t'arrêter devant cette œuvre et je la trouve super.
Oui, alors mon œuvre préférée, ça s'appelle Cœur. Donc c'est une installation qu'il a faite en 2005. En fait, c'est une ampoule qui clignote au rythme d'un battement de cœur.
Qui est vraiment installé au centre d'une pièce.
Qui est, enfin, ouais, c'est
l'ampoule, l'ampoule, ouais, au milieu, et c'est tout.
Et voilà, c'est ça. Et donc c'est hyper, hyper immersif. Parce que bah, du coup, on a ce rythme cardiaque, on se met un peu sur ce rythme-là, et puis en même temps, on a la lumière qui renvoie au cœur qui bat, en fait. On le voit battre devant nous, et je trouvais ça hyper beau. Et en fait, c'est l'idée que bah, dans toutes les civilisations, en fait, le cœur, c'est le symbole de la vie. Dans la première fois qu'il l'a présenté, c'était son propre rythme cardiaque qu'il avait utilisé. Et puis depuis, en fait, il a créé une autre œuvre sur l'île de Teshima, au Japon, où en fait il a créé les archives du cœur. Donc c'est un sanctuaire où ont été en fait stockés 70 000 enregistrements de cœurs qui battent. Et du coup, c'est... Enfin voilà, je trouvais ça très très,
oui,
beau.
Oui, c'est que dans ce sanctuaire, les gens, ils peuvent aller écouter,
oui,
les cœurs des disparus, ouais, en fait. Enfin, ouais, des gens qui étaient plus là.
Oui, voilà.
Et que maintenant, bah, l'ampoule, elle est reliée à cet enregistrement-là, non ? C'est ça ?
Bah, elle est enregistrée à un des...
Elle est reliée à un des
enregistrements, cœurs. À un des cœurs.
Ouais, c'est pas lequel. C'était vraiment très très beau.
Ouais, c'était très... Puis en plus, c'est au début de l'expo. Enfin, ça met... En fait, je trouve que le battement de cœur te met dans le rythme de l'expo. En fait.
Oui, aussi. Et c'est tout simple, mais très émouvant. Moi, c'est aussi une œuvre avec des ampoules, qu'il utilise quand même beaucoup. C'est genre de grosses ampoules à filaments un peu anciennes. C'est une œuvre qui s'appelle Crépuscule et qui date de 2015 et qui est, c'est même pas une salle, c'est vraiment un petit espace à gauche dans un couloir. Vous tombez un peu dessus par hasard et au sol, vous avez plein de ces ampoules avec leurs câbles entremêlés. Et certaines sont allumées et d'autres sont éteintes. Et en fait, c'est des œuvres qu'il fait à chaque fois pour le lieu d'exposition parce qu'il y en a exactement autant que le nombre de jours que va durer l'exposition. Et chaque jour, vous avez une ampoule qui s'éteint. Si vous allez voir l'exposition au début, tout sera éclairé et plus on se rapproche de la fin, plus la pièce sera sombre. Et c'était très beau et très chouette. Et donc pour lui, c'est aussi un peu de parler du passage de l'existence. Encore une fois, c'est toujours ce même thème de la vie qui passe et qui finit par s'éteindre.
Oui, c'était très beau. J'ai beaucoup aimé aussi. On est très ampoule. On est un peu des, on est comme des petits papillons de nuit, quoi. Dès qu'il y a une ampoule, on s'approche.
Ouh là là.
Alors pour les infos pratiques, l'exposition dure jusqu'au 16 mars. Elle se trouve au Centre Pompidou.
À Beaubourg.
Les horaires, c'est de 11h à 21h tous les jours, sauf le mardi, et il y a une nocturne le jeudi jusqu'à 23h. Pour les tarifs, c'est 14€ plein tarif, 11€ en réduit, et bien sûr gratuit pour les moins de 25 ans résidents de l'Union européenne.
Oui, parce que c'est un musée national. Voilà, les conditions de gratuité habituelles. Et on n'a pas entendu, on n'a pas écouté, mais on a vu que le Centre Pompidou ne fait pas d'audio guide. À la place, ils ont un podcast qui résume un peu cette exposition. Donc peut-être que si vous n'êtes pas adepte du petit livret en début d'exposition, vous pouvez aussi télécharger ce podcast en y allant. Mais après nous avoir écouté, évidemment.
Bien sûr. Du coup, on y va avec qui ?
Moi, je dirais, vous y allez avec votre petit cousin slash neveu slash un ado de votre entourage, un lycéen, pas trop avant parce que c'est quand même assez dur. qui est dans sa phase un peu émo, fasciné par la mort, mais qui doit aussi rendre son exposé sur l'Holocauste. Je trouve ça plutôt pas mal, et il sera un peu impressionné, bon, il verra aussi que l'art contemporain, parfois, ça peut être cool, ça peut être très immersif, et on en sort, on a compris plein de choses, et c'était plutôt chouette.
Bon, l'épisode se termine.
On a bien aimé cette exposition, on espère que vous aussi, vous l'aurez bien aimé quand vous l'aurez vue. N'hésitez pas à nous en parler dans nos commentaires sur Instagram et Twitter.
Et retrouvez-nous pour écouter le podcast sur Podbean, iTunes et toutes les bonnes applis de podcast.
Spotify et compagnie. Et on vous dit à tout bientôt.
À bientôt. Salut Gabriel.
Salut Vicky.